Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous. Après avoir gravi les plus hauts sommets du monde, elle a réalisé la traversée de l'Antarctique en solitaire. Prochainement, elle se lance dans une expédition à la voile dans le Grand Sud. Laurence de la Ferrière est notre invitée dans ce magazine.
Je crois qu'en Antarctique, j'ai répondu aux questions existentielles que je pouvais me poser. Et j'ai vraiment eu le sentiment que de retourner à l'Everest, ce serait presque un caprice d'enfant gâté et que je risquais d'y laisser ma vie.
Des reportages également dans ce magazine, avec notamment le retour de l'Energy Observer à Saint-Malo, son port d'attache, après un an dans les mers glacées du nord de l'Europe.
On a voulu affronter les vents, donc on avait souvent des vents de face. On a voulu tester la production photovoltaïque avec un soleil pas évident, hein, beaucoup moins évident qu'en Méditerranée.
Gwendal Jaffry, vous nous parlerez d'une profession méconnue, les atineurs.
Les atineurs, dit aussi bassiniers, qui savent mettre les grands bateaux en cale sèche.
Et Jean-Michel Guignet, vous allez nous présenter un livre.
Et oui, aujourd'hui, Jérôme, nous allons évoquer un livre qui vient de sortir en librairie. Ça s'appelle « 40 ans à la barre, les carnets d'un marin journaliste ». Et dans ce livre, Ruby, que beaucoup de navigateurs connaissent bien, eh bien, il nous raconte plein d'anecdotes sur l'histoire de la plaisance au cours de ces 40 dernières années.
À tout à l'heure, messieurs.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Aventurière, exploratrice, alpiniste, écrivain, conférencière, son CV est très riche, elle a gravi les plus grands sommets du monde. Première et seule femme au monde à avoir traversé intégralement l'Antarctique en solitaire, Laurence de la Ferrière est notre invitée dans ce magazine. Elle commence par revenir sur cette aventure.
Alors en 96-97, j'ai fait la première traversée jusqu'au pôle sud, la première traversée française en solitaire. Et ensuite en 2000-2001, je suis repartie de mon point d'arrivée, donc au pôle sud, pour aller tout à fait en face de la Tasmanie. Et je suis arrivée à Dumont-d'Urville après 3000 km de traversée avec des voiles et un traîneau et 73 jours, voilà, en solitaire.
Qu'est-ce qui vous avait motivé dans ce projet complètement fou?
Je vais vous faire rire.
J'espère.
Non, mais à l'origine, c'est vrai que je suis alpiniste. J'ai passé beaucoup de temps à grimper, 10 ans dans l'Himalaya. Et puis après avoir gravi le Kanchenjunga et le Nanga Parbat sans oxygène, je voulais atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène. Je voulais être la première femme au monde à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène. Et en fait, j'ai tenté 5 fois. J'ai jamais réussi. La plus haute altitude que j'ai atteinte, c'est le sommet sud, donc à peu près à 8700 mètres, totalement sans oxygène. Mais pour moi, c'était un échec. Et c'était vraiment un échec cuisant. Et quand je suis redescendue du sommet, je me souviens, il faisait super beau, j'avais une visibilité incroyable, j'étais entre le Tibet et le Népal. Et je me disais, putain, je suis en train de passer à côté de ma chance, plus jamais je pourrais réussir. Je pleurais derrière mon masque, je suis redescendue complètement désespérée. Et une fois arrivée en France, je me suis dit, il faut que je me mette dans une situation qui me permette de franchir ce cap que je n'étais pas parvenue à franchir pour atteindre les derniers dizaines de mètres qui m'auraient permis d'atteindre le sommet de l'Everest. Et pour ça, il faut que je me mette dans une situation où je serai complètement seule dans le plus grand désert du monde pour apprendre et pour apprendre à faire émerger les capacités que je ressentais mais que je ne parvenais pas à mettre en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle je suis partie en Antarctique et que j'ai fait ces deux expéditions. Et puis quand je suis arrivée après ma deuxième expédition, j'ai eu l'impression d'avoir vécu quelque chose de tellement intense, de tellement fort, de tellement riche, que je me suis dit, je vais m'arrêter là et je retournerai pas à l'Everest.
Après cette deuxième traversée de l'Antarctique, vous vous êtes engagé à piloter la base du Dumont-d'Urville, donc sur le continent antarctique.
C'est voilà, ça pendant plusieurs mois.
En Terre Adélie.
C'est 13 mois. En fait, où vous prenez en charge une équipe, un tiers de scientifiques, un tiers de techniciens et un tiers de fonctionnaires, dont je faisais partie. Et l'idée, c'est de pouvoir mener et de poursuivre les programmes scientifiques qui sont initiés pendant la campagne d'été. Et c'est vrai que les directeurs de laboratoire n'ont pas du tout envie de passer 13 mois pour poursuivre leur démarche. Les programmes scientifiques qui sont menés en particulier en Terre Adélie, mais aussi à Concordia, à Domsay, une base qu'on partage avec les Italiens, sont vraiment extrêmement importants dans tout ce qui est la recherche concernant en particulier l'environnement, la pollution, le réchauffement, les réchauffements, etc. On fait des carottages par exemple à Concordia qui descendent jusqu'à plus de 3000 mètres de profondeur et les informations qu'on recueille dans ces échantillons de glace remontent entre 800 000 et presque 1 million d'années. Donc vraiment ces programmes scientifiques sont vraiment très très importants. et diriger une base pour faire en sorte que en fait ces programmes se fassent dans des bonnes conditions, c'est une responsabilité qui est très importante. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this goal. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore?
Un petit extrait de Queen, Show Must Go On, le choix musical de notre invité que l'on retrouve dans un instant, ça sera juste après Gwendal Jaffry, le rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, qui va nous parler d'une profession méconnue, les atineurs.
Bienvenue à bord.
Gwendal, bonjour.
Bonjour.
Un métier qui consiste à caler les bateaux qui sont à sec.
Alors effectivement, caler les bateaux, déjà qu'est-ce que c'est? Caler les bateaux, c'est simplement quand il n'y a plus d'eau, faut pas que le bateau tombe. En gros, c'est ça, l'eau elle est plus là pour tenir le bateau. Donc on fait en sorte qu'il se tienne bien droit. Alors sur un petit bateau, c'est assez facile, on le pose sur une plage, on le pose sur une cale, voire on met des béquilles ou on l'appuie contre un quai, ça on l'a tous vu. Dans les ports de pêche, notamment, ou les ports de plaisance, qu'on connaît moins, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un méthanier avec un porte-conteneur de 300 mètres de long. Pour ça, on a inventé la forme de radoube. Alors la forme de radoube, c'est un vaste espace. On rentre le bateau dedans, on ferme la porte, on enlève l'eau. Pour l'instant, c'est très simple. Sauf que quand le bateau se pose au fond, il faut bien qu'il se pose sur quelque chose de plat et de plan. Pour ça, on va le poser sur des tins, d'où le nom de ce métier, atineur, celui qui va poser sur des tins. C'est assez compliqué parce que soit le bateau est livré avec un plan d'atinage où on dit voilà où il faut positionner les tins au fond de la forme de radoube, ce qu'on fait bien entendu à marée basse avant de remettre de l'eau pour rentrer le bateau. Soit il faut que les dockmasters, qui est un autre métier lié à cette profession, ce sont les ingénieurs qui vont précisément dire où il faut mettre les tins en fonction de la structure du navire. On met les tins, on rentre le bateau. Là, il faut imaginer, une fois qu'on a fermé la porte et qu'on va commencer à laisser l'eau partir d'abord avec la marée, mais également avec des pompes pour vider la forme, le bateau se positionne à 15 cm près. Je vous laisse imaginer ce que c'est que de positionner un bateau de 350 mètres de long à 15 cm près. Ça se fait au fil à plomb, comme quoi les vieilles techniques ont encore de beaux jours devant elles. Puis on va commencer à vider l'eau, tout en contrôlant que le bateau ne bouge pas. Et une fois qu'il commence à se poser, éventuellement on envoie des plongeurs pour voir si tout se passe bien. Le bateau à sec, d'autres professions vont rentrer en jeu, notamment les électriciens, si on a besoin de brancher le bateau à quai ou d'amener de l'eau à bord, etc. C'est un métier assez étonnant, c'est un métier où on n'a pas le droit de se rater, parce qu'un bateau qui se pose mal, c'est un bateau qui peut tomber. Dans ce cas-là, il est bon pour la casse, c'est aussi un bateau dans lequel on peut faire des trous. Alors ils ont droit à une petite erreur, certains tins sont construits avec du sable et on peut enlever le sable pour déplacer le tin si jamais il pose mal ou si jamais il bouche un trou auquel on avait besoin d'accéder. On a cette technique du tin et on a une autre technique qui est utilisée pour les bateaux qui n'ont pas de fond plat comme la plupart des bateaux de commerce, notamment les bateaux de la Marine nationale. Vous imaginez un sous-marin ou vous imaginez une frégate, on ne peut pas les poser sur des tins parce que leur fond ne correspond pas à ces formes-là. Dans ce cas-là, on a un atinage dit à clé ou à accord. C'est des clés qu'on va mettre, des morceaux de bois qui vont tenir le bateau le long du quai. Des métiers complètement méconnus, mais qui méritent le détour, si tant est qu'on puisse accéder aux formes de radoube.
Merci, Gwendal Jaffry.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Nous retrouvons notre invitée, l'aventurière et exploratrice Laurence de la Ferrière, qui évoquait il y a quelques instants l'ascension des plus hauts sommets du monde et ses traversées du continent antarctique en solitaire. Elle repart prochainement pour une expédition à la voile dans le Grand Sud pour une mission écologique et scientifique.
Dans cette expédition, moi je suis surtout la référente pour l'Antarctique. Donc, en particulier au niveau des bases, en tant qu'ancien chef de district, j'ai une relation privilégiée avec les dirigeants des différentes bases des différents pays. Donc l'Institut Polaire a déjà posé un certain nombre de pions de façon à me faciliter la relation avec ces gens. Et l'idée, c'est d'essayer de les faire témoigner de ce qu'ils font à leur manière, de savoir pourquoi ils sont là. On sait en gros pourquoi, mais chacun aura quelque chose à dire qui sera forcément intéressant. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a peu de témoignages en direct. Hein, il y a une dizaine de bases avec une dizaine de pays différents. Il y a quand même la Bulgarie, il y a la Chine, il y a la Corée, il y a l'Espagne, il y a le Pérou, il y a la Russie, il y a le Chili, il y a l'Argentine. Donc je veux dire, chacun aura à sa manière des choses à dire. Et je trouve, personnellement, par rapport à l'expérience que j'ai eue, je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est aussi très intéressant de raconter ça aux jeunes, je veux dire, de savoir, parce que personne ne sait. Personne n'a idée qu'il y a une dizaine de bases de 10 pays différents sur l'île du Roi-Georges, qui n'est pas très grande. Donc ça, c'est vraiment du ressort de ma responsabilité. Après, donc, je suis la référente pour l'autorisation. Donc il y a une autorisation qui est demandée. Hein. Vous savez que l'Antarctique est protégée par un traité. C'est avec des codes qu'il faut respecter et qui sont très importants. Donc c'est aussi de faire en sorte que tout ça soit respecté par rapport aux traités qui ont été signés. Et ensuite, on prévoit de traverser l'île du Roi-Georges à ski et peut-être faire quelques premières au niveau de quelques sommets, voilà, qui est une île qui est totalement vierge et qui n'a pas été explorée par des alpinistes.
Vous allez retrouver des glaciers.
Absolument, ouais.
Vous avez l'habitude de naviguer autrement, Laurence ?
Alors moi, j'ai navigué, j'ai eu un voilier avec mon compagnon, donc j'ai pas mal navigué. J'étais la marraine du Banque Populaire quand Lalou Roquerolle était le skipper. J'ai navigué avec plusieurs personnes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais pour lequel j'ai aucune compétence. Mais je suis prête à apprendre, parce que vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Merci, Laurence de la Ferrière.
Merci à vous.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Retour à la maison pour l'Energy Observer, le navire à hydrogène a retrouvé son port d'attache à Saint-Malo le week-end dernier, après un an dans les mers glacées du nord de l'Europe. Une pause pour l'hiver, avant de repartir pour une nouvelle expédition. Maxime Bossonnet était présent lors de son retour.
Saint-Malo port, Energy Observer, vous me recevez ?
Les remparts de la cité corsaire sont en vue. Le capitaine Jean-Baptiste Sanchez a le sourire. Après 15 000 km dans les mers froides d'Europe du Nord, il retrouve la côte bretonne.
C'est toujours un grand plaisir et une grande émotion en fait, de rentrer à Saint-Malo. C'est là où on a vraiment appris l'amour de la mer. Quand tu passes le phare à l'entrée du chenal de Saint-Malo, c'est toujours extraordinaire pour nous.
Tous ces mois au large ont mené l'équipage à l'archipel des Spitzberg, 200 km au nord du cercle arctique. Objectif, pousser l'Energy Observer dans ses retranchements. Victorien Hérussard, l'autre capitaine du navire.
On a voulu affronter les vents, donc on avait souvent des vents de face. On a voulu tester la production photovoltaïque avec un soleil pas évident, hein, beaucoup moins évident qu'en Méditerranée.
Et le résultat est plus que satisfaisant. Le mix énergétique a propulsé le bateau sans difficulté dans les étendues glacées.
On a à bord du navire toujours une source d'énergie qui prend le dessus. Solaire, éolien, hydrolien, mais aussi de l'hydrogène qui prend le relais. On est autonome en énergie, maintenant il faut réussir à être plus performant et augmenter la vitesse.
Le prochain défi sera en février 2020, une transocéanique en commençant par une traversée de l'Atlantique. En attendant, le bateau va se préparer chez lui à bon port, à Saint-Malo.
Bienvenue à bord.
Jean-Michel Guigny, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Vous nous présentez un livre qui vous tient à cœur.
Eh bien aujourd'hui, oui, nous allons parler d'un livre, qui vient de sortir en librairie, qui s'appelle « 40 ans à la barre, les carnets d'un marin journaliste ». Alors ce bouquin qui vient de sortir, comme je le disais, il est dû à Bernard Rubinstein. Alors Bernard Rubinstein, il est bien connu dans le milieu de la voile, sous le surnom de Ruby. Et Bernard Rubinstein, donc Ruby, il s'est lancé dans ce métier de journaliste nautique il y a maintenant une quarantaine d'années, après un embarquement avec Thierry Tabarly. Et dans ce livre, il nous conte, avec moult anecdotes, 60 ans de plaisance depuis son enfance, depuis la découverte de la mer, jusqu'à sa dernière trouvaille chinée dans un bric-à-brac, parce qu'il est amateur aussi d'objets insolites. Alors depuis 40 ans, Ruby, il a navigué avec tous les plus grands, il a participé à tous les événements maritimes incontournables, il s'est intéressé à tout ce qui concerne la plaisance, et j'allais dire même au-delà, tout ce qui concerne la mer, comme notamment les relèves de phare. Alors c'est un vrai passionné qui a réalisé de nombreux reportages, notamment pour le magazine Neptune pendant très longtemps, et puis il a navigué avec tous les grands noms de la voile, avec Éric Tabarly bien sûr, avec lequel il a participé à la première course autour du monde en 1973, mais aussi avec Alain Colas, avec Olivier de Kersauzon, avec Titouan Lamazou, Mike Birch, Loïc Perron, Philippe Poupon, Armel Lecléache, Jean-Luc Vandenède et bien d'autres encore. C'est un observateur privilégié, c'est certain, de la plaisance en perpétuelle mutation au cours de toutes ces années. Il a toujours été présent dans les grands départs, les départs de grandes courses internationales. Je pense bien sûr à la Transat anglaise à Plymouth, à Saint-Malo pour la Route du Rhum, au Sable d'Olonne pour le Vendée Globe. Mais ce marin journaliste, en fait, il n'a pas limité ses reportages, comme je l'évoquais, au seul monde de la course. Il a aussi connu des tempêtes à bord de la baie Flandre. Il a vécu pendant 8 jours dans le phare de Cordouan. Il a participé aux dernières relèves des phares de la mer d'Iroise. Il est allé naviguer sur la fameuse Biscayne de Cancale, à Venise, devant la place Saint-Marc. Et puis, effectivement, son goût aussi pour la collection de tous ces objets insolites autour du thème maritime. C'est vraiment un livre très riche. Il est bourré d'anecdotes. Ruby nous y raconte certes sa vie professionnelle, mais c'est un bouquin passionnant parce qu'il met en avant aussi toutes les rencontres qui ont forgé son plaisir, qu'il s'agisse d'un gardien de phare, d'un coureur au large ou même d'un simple tenancier de chantier naval. Alors ce livre, il est vraiment bien illustré, il est riche, il est varié, il y a plein d'anecdotes. C'est vraiment un bouquin qui s'adresse à tous les plaisanciers, jeunes ou moins jeunes, qui vont pouvoir revivre ainsi toute l'évolution de la plaisance au cours de ces 40 dernières années. Et qui, mieux que Ruby d'ailleurs, pouvait nous narrer toutes ces histoires. Je vous le recommande vraiment chaudement, je vous recommande vraiment chaudement cet ouvrage. Il s'appelle « 40 ans à la barre, les carnets d'un marin journaliste ». C'est aux éditions Glénat, ça coûte 25 €, et pour un beau pavé illustré comme ça de 250 pages, allez, on va dire que c'est un prix raisonnable et un petit plaisir que l'on peut se faire, ou qu'on peut faire d'ailleurs, à ses amis ou à ses proches.
On vous retrouve dans un instant, Jean-Michel, pour nous présenter un navigateur.
France Bleu, bienvenue à bord.
Départ du Havre ce dimanche de la Transat Jacques Vabre, Transat en double, 60 bateaux sur la ligne de départ, cap sur Salvador de Bahia au Brésil. Coup de projecteur sur Basile Bourgnon, il n'a que 17 ans, c'est le plus jeune skipper jamais engagé sur cette course. C'est le fils de Laurent Bourgnon, navigateur disparu en mer en 2015 après un accident de plongée. Basile qui veut mettre la jeunesse à l'honneur. Portrait signé Théophile Pedrola.
17 ans et 5 mois, personne n'a tenté la traversée Le Havre-Salvador de Bahia aussi jeune que Basile Bourgnon. Et cette année, ils sont deux, encore mineurs, à prendre le départ de la Transat avec Martin Louchard. Un hasard qui rend Basile fier de sa génération.
On est deux jeunes, c'est assez exceptionnel cette année. C'était jamais arrivé en fait avant. Pression, non, on se met pas trop la pression. On sait qu'on mérite notre place tous les deux. On a bossé tous les deux pour en arriver là. On mérite autant que tout le monde d'être sur la ligne de départ.
Basile prend le départ avec Emmanuel Leroc de 30 ans, son aîné, mais à entendre le skipper de Lorient, cette différence d'âge est invisible en mer.
On a l'âge qu'on veut dans la tête, hein. Sur l'eau, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'on a cette différence. Dans les sujets de conversation, Basile est très mûr, donc ça me dérange pas du tout. Ça me force à rester jeune.
Avec son jeune âge, Basile est scruté comme étant le fils de son père, Laurent, vainqueur de la Jacques Vabre en 1997, deux fois lauréat de la Route du Rhum, avant de disparaître en mer.
C'est un regard... C'est une expérience en tout cas. C'est clair que pour moi, d'avoir vécu sur l'eau les trois quarts de ma vie, ça me met assez à l'aise de partir en mer. Mais après, un regard, c'est un milieu dans lequel je me sens bien. Il n'y a pas de pression sur ça.
Ce départ, c'est une histoire de famille qui va continuer à s'écrire.
Départ de la Transat Jacques Vabre prévu ce dimanche à 13h15. Quelques autres rendez-vous à noter sur votre agenda nautique. Toujours en voile, départ le week-end prochain, le 3 novembre, de la Brest Atlantique avec 4 maxi trimarans de la classe ultime qui vont faire route vers Rio de Janeiro, puis le Cap en Afrique du Sud avant de revenir à Brest. C'est une première. Et puis côté salon, de jeudi à dimanche prochain, le 1000 Sabords se déroule au Cresti dans le Morbihan, le salon du bateau d'occasion. Et puis je vous rappelle que le salon nautique de Paris arrive à grands pas. Ça sera du 7 au 15 décembre, Porte de Versailles à Paris. Et la billetterie est déjà ouverte.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Pour terminer ce magazine, Jean-Michel Gagné, vous nous présentez donc un navigateur.
Et nous allons parler aujourd'hui de Paul Vatine. Paul Vatine, c'est vrai qu'avec la Transat Jacques Vabre qui va bientôt s'élancer du Havre, il était normal que l'on évoque le plus célèbre des navigateurs havrais. Paul Vatine, né en 1957, est disparu tragiquement lors de la route du café en 1999 à bord de son trimaran. Il a été vainqueur de la Transat Québec-Saint-Malo en 1988, deuxième de la route du Rhum en 1994, second de la Transat anglaise en solitaire en 92 et 96, un magnifique palmarès. Et Paul Vatine, eh bien, il a remporté deux fois la Transat Le Havre-Carthagène en 93 et 95. Cette Transat disputée sur la route du café et qui s'appelle désormais la Transat Jacques Vabre, dont on parle évidemment beaucoup ces jours-ci.
Merci Jean-Michel Gagné. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. À très bientôt. Au revoir.